Henri Bardon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le problème classique des relations de l'écrivain avec le pouvoir. Dans les régimes dictatoriaux, enfin les régimes qu'on appelle les régimes forts par euphémisme, ces relations obéissent à une double dialectique. D'une part, le régime fort est tenté de neutraliser l'écrivain. S'il n'existait pas, ce n'en serait que mieux, mais il existe, il faut se faire une raison. Et toute l'énergie du pouvoir est tournée vers ce paradoxe que quelqu'un parle, mais parle de façon anodine, parle en marge. En fait, le pouvoir tend à rendre la parole neutre et à nier l'existence de l'écrivain. Mais naturellement, ce serait trop simple si les choses se passaient toujours de cette façon. Il y a une autre tendance dans les régimes dictatoriaux, c'est de s'annexer l'écrivain, c'est d'en faire un porte-parole, et c'est de se servir de lui, au lieu de le nier, pour créer une sorte de façade prestigieuse. Et je crois que cette seconde tendance, dans la Rome de l'Empire, l'a certainement emporté sur la première. Henri Bardon, la première question que je voudrais vous poser, c'est donc de savoir s'il y a eu à Rome ce qu'on peut appeler, ce qu'on appellerait de nos jours, dans notre jargon, une politique culturelle des empereurs à l'égard des écrivains.
Oui, il y a eu une politique culturelle indiscutable, ce qui ne signifie pas que cette politique ait été cohérente. Elle varie selon les empereurs. Les empereurs se trouvaient d'ailleurs hérités d'une tradition. Une tradition assez étonnante. Dans la République archaïque, on ne distinguait guère l'écrivain du scribe. C'est quelqu'un qui rendait service. Il rendait service pour la rédaction de certains textes et aussi parce qu'il était un intermédiaire tout trouvé entre les hommes et les dieux. C'est ainsi que l'on a commandé à des écrivains archaïques des hymnes officiels qui étaient justement commandes d'État. L'on se souciait fort peu du contenu et de la valeur intellectuelle des textes. Il fallait simplement qu'ils fussent utiles dans les rapports de la collectivité avec les dieux. Ceci a marqué certainement la mentalité latine. Et la preuve, c'est qu'un homme comme César, qui est un homme d'un grand rayonnement personnel, et d'un génie indiscutable, on peut ne pas l'aimer, c'est un autre problème, a été en même temps un propagandiste de lui-même, à savoir ses ouvrages si célèbres de la guerre des Gaules ou de la guerre civile, en plus de leur intérêt proprement historique, visent à nous présenter de lui et de sa politique une belle image. Je dis à nous présenter, à la présenter à son public, et par conséquent à utiliser le genre historique à des fins extrêmement personnelles et extrêmement précises. Eh bien, on peut dire qu'Auguste a parfaitement compris l'utilité de la fonction littéraire à l'intérieur de cette grande machine qu'il était en train d'élever au début, justement, de l'Empire. Et il a voulu avoir, soit directement, soit par l'intermédiaire de cet homme qui était à certains égards un écrivain plein de talent, qui s'appelait Mécène et un très bon diplomate en même temps, il a voulu donc agir sur des hommes de l'importance de Virgile, d'Horace, d'Ovide et bien d'autres.
Comment s'y est-il pris ?
Ah, comment s'y est-il pris ? Soit par la séduction personnelle. Il est très évident que Virgile a eu pour lui une espèce de vénération. Dès le temps où il écrivait les bucoliques, c'est-à-dire au moment où Octavien n'était pas encore Auguste, Virgile l'appelle Dieu. Et il y a une séduction de la personne qui joue indiscutablement. Mais cette séduction n'a pas agi sur quelqu'un comme Horace. Et ça, nous voyons là très rapidement l'attitude, si vous voulez, de certains écrivains envers les empereurs. Il faut voir, je crois, les choses de l'Antiquité un peu selon l'optique moderne. Qui est Horace ? Horace, c'est un fils d'affranchi. Au moment où éclate la guerre entre Cassius et Brutus, d'une part, et d'autre part ceux qui se prétendent les héritiers au moins spirituels de César, il est à Athènes. À Athènes, il fait partie, il s'engage dans les troupes de Cassius et de Brutus. Pourquoi ? Bah, pas du tout par républicanisme, comme on l'a dit, mais parce que Cassius et Brutus regroupaient l'aristocratie sénatoriale, les gens bien de Rome qui s'étaient réfugiés là. Et puis, contrairement aux espoirs d'Horace, Cassius et Brutus sont battus. Et alors, ils se retrouvent à Rome. Et à Rome, il faut l'imaginer comme faisant les antichambres ministérielles. Ils s'arrangent pour avoir des relations avec Mécène. Mécène qui est d'abord réticent et puis qui se rend compte que l'homme a du talent et qu'il peut servir. Et par l'intermédiaire de Mécène, Horace arrive à joindre Auguste, sans avoir pour Auguste une sympathie illimitée d'ailleurs, tant s'en faut. Mais quand même, c'est la fin des guerres civiles, et à défaut d'une adhésion du cœur, eh bien, il fait la politique du moment. De manière générale, voyez-vous, ce qui est assez étonnant, c'est que l'empereur, qui s'est le moins soucié d'utiliser à des fins politiques les écrivains, c'est sans doute celui qui était le plus un écrivain et un artiste par tempérament, c'est Néron. Car si du temps de Néron, il y a eu évidemment quantité d'écrivains qui lui ont fait leur cour, on ne décèle pas chez lui une volonté systématique d'infléchir la littérature dans son sens. Et si le grand poète épique contemporain qui est Lucain a fait son éloge, un éloge qui ne semble pas ironique du tout au début de la Pharsale, on ne peut pas dire que Néron ait fait quoi que ce soit, enfin nous n'en avons pas du moins la preuve, pour inciter Lucain à s'engager dans cette voie-là.
Est-ce parce qu'il manquait d'idées politiques, comme on l'a prétendu ?
Ah, pas du tout. Pas du tout. Je ne pense pas que l'on ait raison de l'estimer que Néron apporte une conception radicalement nouvelle de l'Empire, qu'il imagine le rôle de l'empereur comme celui d'un intermédiaire entre les hommes et Apollon. Cette conception, qui a été exprimée il n'y a pas longtemps avec beaucoup de talent, me paraît un peu excessive, mais il est très certain que Néron a des idées politiques, ne serait-ce que parce qu'il est obligé de se définir par rapport à la politique de sa mère, à savoir cette espèce de retour à certains principes augustéens. Et certainement, il a auprès de lui deux esprits politiques de premier ordre, le préfet du prétoire Burrus et Sénèque. Donc, ça n'est pas par manque d'idées politiques du tout, mais c'est parce que sans doute, il estimait que la littérature avait autre chose à faire que de la politique. Du moins, voyez-vous, ici, il faut, je crois, être très prudent. Il faut distinguer peut-être l'action des individus et l'action des genres. Un genre extrêmement, comment dirais-je, apolitique, au moins en principe, comme la bucolique, me paraît en réalité un genre profondément politique. Et voici pourquoi. La bucolique tenait une partie de son prestige du génie de Théocrite. Le poète alexandrin Théocrite avait divisé ses bucoliques en deux parties, en gros, n'est-ce pas, à savoir les unes qui étaient consacrées aux éloges des empereurs et les autres qui mettaient en scène simplement de pseudo-bergers, sans qu'il fût question de politique le moins du monde. Eh bien, au temps des Romains, les choses vont un peu différemment. Dans les premières bucoliques de Virgile, il y a des allusions politiques extrêmement précises et on les retrouvera ailleurs. Mais, à l'époque de Néron, par exemple, chez Calpurnius Siculus, mais du temps de Néron, ces bucoliques visent à exalter le personnage qu'est Néron, surtout en tant que chanteur de génie, en tant que poète de valeur. On ne décèle pas une intention politique précise. Et ce qui me paraît cependant politique dans la bucolique, c'est le fait qu'à Rome, il y a une insistance voulue sur une atmosphère de rêve, un fouillis de lignes courbes, une sorte de renoncement à ce qui est précis. Le monde de la bucolique, c'est un monde où la clarté des choses, en quelque sorte, se dissout dans l'intensité de la lumière. C'est un monde également où les corps sont alanguis, où en somme, le moment du loisir et du repos fait place à la notion de l'activité du citoyen. Et c'est pourquoi la bucolique me semble un genre politique, parce que c'est une incitation au renoncement. Et même lorsqu'il n'y a pas d'allusion politique, d'éloge vis-à-vis d'un empereur précis, toujours il y a ce désir de détourner les Romains non pas d'une vie politique active, la question ne se pose guère à l'époque de l'Empire, mais d'une participation même modeste à l'intérêt que peut présenter la gestion des affaires de l'État. En somme, si vous voulez, le berger se substitue au lecteur, au citoyen, tout simplement.
Oui, cet apolitisme vient du fait que les empereurs ne tiennent pas à ce qu'on parle de certaines choses et que la politique est un sujet, disons, scabreux.
Oui.
Parce qu'il y a quand même une censure.
Bien sûr, il y a une censure sans qu'il y ait de censure. Vous savez, vous parliez tout à l'heure des régimes autoritaires. Eh bien, à Rome, il en était un peu comme dans les temps modernes. Il n'y a pas de censure en ce sens que nous ne sommes pas en présence de services extrêmement bien institués et installés, comme il pouvait y en avoir dans la France du XVIIIe siècle. Rappelez-vous les histoires de l'encyclopédie. Non. Mais déjà, dans les 12 tables, dans la mesure d'ailleurs où nous pouvons comprendre le texte qui nous est arrivé en mauvais état, on affirme que la liberté est donnée à tout le monde, sauf pour les écrits qui touchent à la magie et à la diffamation. Bon. Et ça nous paraît assez limité, n'empêche que nous avons un petit incident assez curieux, à savoir que le poète Naevius, au second siècle, avait dit du mal des Metelli, et il s'en est fort mal trouvé. Les Metelli, paraît-il, l'avaient roué de coups de bâton, ce qui prouve que, 12 tables ou pas, il y avait certainement une prudence à observer vis-à-vis des puissants de ce monde. Et lorsque Sylla devint dictateur, il fit passer la Lex Cornelia Maiestatis. Par conséquent, nous sommes, si vous voulez, au début du premier siècle de notre ère. Et cette Lex Cornelia prenait position contre tout ce qui diminuait l'honneur et le prestige du peuple romain. Là, évidemment, les termes étaient très vagues et permettaient tous les abus. Auguste, ici encore, a repris une tradition antérieure à lui. Et cette Lex Cornelia, il l'a étendue des actions aux paroles. De même, des lois qui, en soi, n'ont pas l'air très dangereuses. L'été, ainsi, fit passer une loi sur la répression des excès de liberté dans les testaments. Pourquoi ? Parce que quand un monsieur faisait son testament, en général, il n'y avait plus grand-chose à perdre. Et il en profitait pour dire ce qu'il pensait. Ce qu'il pensait en particulier de l'empereur. Ce n'était pas toujours très élogieux. Et les testaments circulaient, c'est la forme, une des formes des pamphlets du temps. Il a été bon, justement, de remédier à cela. Et la Lex Maiestatis a été appliquée sous toutes ses formes et de plus en plus. Il est certain que, on est étonné d'apprendre que Cassius Severus, qui était un écrivain important de l'époque, vit brûler ses édits en 9 après Jésus-Christ et fut relégué en Crète. Tout ceci à l'époque, donc, d'Auguste, quelqu'un qui ne passe pas pour spécialement cruel. Eh bien, ici encore, nous apercevons qu'il y a une opposition entre cette rigueur douce mais implacable d'Auguste et l'enthousiasme néronien. C'est ainsi qu'en 62, si je ne me trompe, un poète qui n'est pas une gloire, le poète Socinus, avait écrit des poèmes particulièrement insultants contre Néron. Le Sénat trouva l'occasion belle pour faire sa cour à l'empereur et, évidemment, commença un procès de majesté que Néron ne poursuivit pas. Que Néron ordonna qu'on l'interrompît. Pourquoi ? Parce que, au fond, ça lui était assez indifférent. Néron était un homme de lettres, se considérait comme tel, et peut-être que les insultes d'un homme de lettres étaient une manière de lui rendre hommage. Enfin, ça, c'est une interprétation qui m'est personnelle, dont je ne suis pas sûr du tout qu'elle soit exacte, mais le fait est quand même assez curieux de la part de Néron.
Il y a un autre empereur qui a eu vis-à-vis des écrivains et des lettres une attitude tout à fait intéressante. Il s'agit d'Adrien.
Oui.
Adrien est une personnalité qui possède l'originalité d'être à la fois un homme de pouvoir, un homme politique au sens très précis du mot, qui gouverne, mais en même temps qui est écrivain et qui connaît la littérature, lui attache une certaine importance et lui consacre un certain temps. Alors, quels ont été ses rapports avec les écrivains ?
Ses rapports avec les écrivains ont été extrêmement complexes. Dans son attitude vis-à-vis des écrivains, il aimait s'entourer d'écrivains d'origine grecque ou de langue grecque, le philosophe Épictète, le philosophe Héliodore, et quand il s'agissait d'un Favorinus qui était un Gaulois, le Favorinus en question écrivait et parlait essentiellement en grec. Donc, un goût tout à fait net pour la littérature grecque, et en même temps, il n'y a aucun repos chez Adrien, ni avec Adrien. Il aime, comme nous dirions, poser des cols à son entourage. Et automatiquement, les écrivains grecs ou latins sont bien obligés d'être de son avis. Quelqu'un dit, comment ne pas être de l'avis d'un homme qui a tant de légions ? Voyez-vous, Adrien se trouve dans une position difficile, de par son caractère, et de par aussi sa situation, disons, sociale. Mais autrement, lui-même, il aime la littérature. Nous avons des restes de certains discours de lui dans un discours aux légions de Lambès, qui a vraiment une très belle allure. C'est un homme de lettres qui est touché de ce que nous appellerions un peu de romantisme, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'être un homme d'action singulièrement lucide, comme vous le disiez tout à l'heure. Et d'ailleurs, les décrets, les lettres que nous avons conservées prouvent que son activité était indiscutablement tout à fait contrôlée. Il est évident que Adrien a essayé de marquer son temps aussi par son action. Il a écrit une autobiographie. Il n'en reste rien et c'est une des lacunes les plus graves de notre connaissance de l'Antiquité.